France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour ouvrir cette édition dans la Drôme, nous nous sommes appuyés sur un courrier qui nous présentait une ferme atypique qui intègre pleinement, je cite, « la vie sauvage dans son exploitation ». Nous avons voulu en savoir davantage. Il s'agit de la ferme du Grand Laval, dans la commune de Montélier, où on va rejoindre tout à l'heure Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros, à l'est de Valence. Sébastien nous y attend. Ensuite, une initiative qui mérite d'être largement connue et diffusée. C'est un collectif d'auteurs et de dessinateurs de bandes dessinées qui met son savoir-faire, son talent au service des acteurs du social, de l'humanité, de l'environnement avec des ONG. En 5 ans, The Inkling, c'est son nom, a couvert plus de 70 actions sur 4 continents. Le résultat est plus que convaincant et efficace.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Sébastien Blage, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de témoigner et merci aussi à Eric qui nous a écrit en disant « Sébastien et Elsa animent une ferme paysanne et sauvage, c'est la ferme du Grand Laval, et font tout pour faire revenir le vivant en milieu agricole ». Alors vous avez été à bonne école en tant qu'ornithologue et vous avez été chargé de mission pendant de très nombreuses années à la LPO.
Oui, exactement. Moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé comme ornithologue à la LPO et comme collaborateur du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc vraiment témoin de la richesse et de la diversité de la faune qu'on peut avoir dans la vallée du Rhône, puisque nous on est en vallée du Rhône, mais aussi et surtout témoin de leur déclin en fait, et en particulier dans les espaces agricoles.
Dans un autre domaine, un interlocuteur nous disait il faut sortir de l'entre-soi, et il disait ça au niveau du spectacle, parce qu'il dirige un ensemble de salles dans les Vosges, et il disait moi je pourrais faire un spectacle autour des migrants, mais je vais avoir comme spectateur que des personnes qui sont convaincues par la cause des migrants. Est-ce qu'on peut pas dire la même chose de l'agriculture, parce que vous êtes le premier convaincu, vous êtes de plus en plus nombreux. Mais c'est la grosse agriculture qu'il faut arriver à convaincre de changer ses méthodes.
L'enjeu, il est là, effectivement. Il est d'arriver à faire convaincre ceux qui dominent et qui occupent 99% de la surface des terres agricoles de France. C'est compliqué. Après, nous, l'espoir, c'est que la ferme reste une ferme ouverte, où on a des visites importantes qui sont de tous bords, dont des agriculteurs qui sont dans le circuit conventionnel, plus classique que le nôtre et qui s'interroge. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de certaines personnes, mais entre la prise de conscience et la capacité au changement, là, en fait, c'est vraiment des grands enjeux, des grandes questions politiques, en fait.
Oui. Vous avez réintroduit du sauvage, ça veut dire quoi dans la ferme ?
Ben nous, en fait, on s'appuie... Alors, moi, je suis un ancien aussi technicien de la protection des cultures, donc j'ai appris à utiliser des phytosanitaires. Et en fait, l'agriculture, c'est quand même un sacré pari où on est, d'une certaine manière, toujours en recherche d'un équilibre pour arriver à produire, à faire en sorte que le pommier fasse des pommes, mais que toutes les pommes ne soient pas véreuses. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, la solution la plus simple et la plus efficace, c'est le recours aux intrants chimiques. Nous, on a fait le pari du recours à la vie sauvage, c'est-à-dire c'est toutes ces forces qui font que, en fait, en réalité, l'essentiel des productions agricoles se font. Les forces, comme pour comprendre, par exemple, la pollinisation, l'essentiel de la pollinisation en France, heureusement, se fait avec des insectes. Pour la plupart, d'ailleurs, des insectes sauvages. Les abeilles domestiques y participent, mais essentiellement, c'est des abeilles sauvages qui participent à la pollinisation. Et donc, nous, en s'appuyant sur le retour de toute cette faune et toute cette flore qu'on ne maîtrise pas, mais si on lui laisse la possibilité de revenir sur la ferme, elle va être ici en abondance et on va reconstituer un réseau d'écosystèmes le plus complexe possible. On peut espérer répondre à nos enjeux sur la ferme de protection de culture, par exemple, et d'arriver à produire des produits sains en quantité suffisante qui nécessitent quand même quelques explications et la vente directe le permet pour être commercialisé parce que la grande question des cosmétiques ne peut pas non plus être résolue par non plus le sauvage, quoi, vous voyez.
Parce que chez vous, on trouve à peu près tout, les céréales, les fruits, les légumes, les œufs et la viande.
Bah, chez nous, en fait, moi je pense que dans les solutions qui permettent d'arriver à trouver un équilibre, c'est d'arriver à mettre en place une ferme la plus logique possible, comme un écosystème. Et autour du sauvage, on a construit aussi un système agricole qui soit le plus résilient, le plus logique possible. Et ça, chez nous, c'est passé par la polyculture élevage, avec tout ça interconnecté. Et la polyculture élevage, donc nous, on a des brebis, des poules, mais tout petits, hein, on a 100 brebis, on a moins de 200 poules pondeuses, 3 hectares d'arbres fruitiers et une quinzaine de cultures de plein champ. Et tout ça, ça vit ensemble. Et pour que tout ça, ça vive ensemble, eh bien, en fait, on voit que naturellement, on va faire la place aussi au sauvage parce qu'on va avoir plein de cultures, nécessité d'avoir des haies. On replante des arbres, on replante, on redonne au ruisseau la capacité de nouveau de redivaguer, etc. Parce que ça nous rend des services et du coup, la nature en profite directement.
Ouais, et le résultat, c'est la faune est là à nouveau.
Ben, le résultat, nous, il est extraordinaire. Hein, comme je vous disais, moi, j'ai bossé sur les oiseaux. On est parti, il y avait 20 espèces d'oiseaux quand on a commencé, qui étaient essentiellement autour des bâtiments et du parc. Et dans la parcelle qu'on a repris au démarrage, il y avait juste un fragment d'une vieille haie. Il y avait donc rien. Et aujourd'hui, il y a 50 espèces d'oiseaux nicheuses sur la ferme. Et donc là, c'est pour les oiseaux, mais c'est valable aussi pour les papillons, pour tout un tas d'autres animaux et végétaux. En 15 ans, pour peu qu'on soit attentif et que le système agricole redonne la place au sauvage, eh bien le sauvage, une certaine forme de sauvage, tout du moins, revient.
Si vous voulez bien remplir sainement votre assiette, la ferme du Grand Laval est sur la commune de Montélier, à quelques kilomètres de Valence. Et le site, c'est la ferme du Grand Laval.wordpress.com. Merci et bravo, Sébastien.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Dans la catégorie réemploi et réduction des déchets, l'association Valence Atelier Libre est en bonne place. 2 salariés, des centaines d'adhérents qui se retrouvent dans les 2 lieux d'activité de l'association. Le premier à Valence est destiné à partager les savoir-faire avec une 20aine d'initiations. Or, on a tout, hein. La mécanique automobile, la sérigraphie, la soudure, la cuisine, les pratiques artistiques ou la construction de meubles. La liste serait trop longue à donner, mais il y en a pour tous les goûts. Par la même occasion, les adhérents peuvent utiliser à volonté toutes les machines et les outils mis à disposition. Le deuxième lieu est à Montméran, siège de la matériothèque où sont exposés les invendus et matériaux considérés comme déchets par les entreprises et les particuliers. Pour bénéficier de ces services ou activités, une cotisation minime est demandée chaque année, le reste étant à prix libre. Autrement dit, vous donnez ce que vous êtes capable de débourser, quel que soit le volume des matériaux ou le nombre de participations aux ateliers. Les membres de l'association jugent en effet que le prix libre crée, je cite, un climat de confiance, d'entraide et de volontariat dans l'échange. L'association invite les personnes désireuses à découvrir les lieux et leur fonctionnement à des permanences d'accueil qui ont lieu les mercredis et samedis à la matériothèque de Montméran. Le site, c'est vatelier.fr. Laure Garancher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome, autrice aussi de BD. Vous avez été conseillère de coopération santé pour l'OMS. Et c'est au cours d'une mission en Amazonie, vous êtes dit face à un public avec lequel j'ai des problèmes de communication, l'image, le dessin et la BD sont les meilleurs vecteurs.
C'est exactement ça. En fait, on essayait de faire passer une campagne de communication sur la vaccination avant le Covid. Et toute la campagne était basée sur l'utilisation de super-héros. Sauf que c'est dans un endroit où il n'y a pas de cinéma et personne n'avait jamais vu de film de super-héros. Donc ça ne marchait pas. Et même les gens nous disaient, si ça continue comme ça, on ne veut plus bosser avec vous. Donc suite à ça, j'ai monté un petit projet de recherche avec un ami scénariste de BD, Wilfried Lupano, et une autre dessinatrice, Mayana Itoz. Et on est parti sur place, on a travaillé, on a développé des outils avec les gens. Et en fait, ça a tellement bien marché. À la fois, eux étaient super contents d'avoir des supports où ils se voyaient, ils se reconnaissaient. Et nous aussi, on était contents d'avoir fait quelque chose d'utile. Et on s'est dit, on va créer une association pour pouvoir démultiplier ça.
Alors, ce ne sont pas uniquement des albums, ce sont des outils, des supports de communication que vous proposez à ces ONG en particulier. Mais vous en êtes au bout de 6 ans et demi, à combien d'axes de communication, de supports de communication réalisés?
Alors aujourd'hui, on a créé plus de 100 supports. Et en fait, pour nous, la BD, c'est vraiment un outil magique pour parler et faire de la com, pour plein de raisons. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand on est auteur de BD, par rapport à quelqu'un qui va essayer de faire un film, on fait les décors, on fait les costumes, on fait l'éclairage, on va faire les cadrages, etc. En fait, juste avec un crayon, on peut faire tous ces rôles-là. Donc la BD, c'est vraiment un super support. On va pouvoir créer des personnages auxquels les gens peuvent s'identifier. c'est vraiment un support qui peut trouver plein de moyens différents pour faire passer des informations et faire comprendre les choses.
Et vous savez, Laure, j'ai à cœur que les artistes, les dessinateurs, les scénaristes soient aussi rémunérés. Comment faites-vous pour rémunérer à hauteur de leur talent ces personnes ?
Oui, alors ça c'est un sujet très intéressant parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en France, la plupart des auteurs de BD vivent sous le seuil de pauvreté malheureusement parce que quand on fait un album, on n'est pas forcément très bien rémunéré. Et nous, pour ces travaux, en fait, on cherche toujours des fonds de manière à ce que les artistes soient payés à un taux juste. Il existe en France ce qui s'appelle la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse qui fixe des tarifs qui seraient censés être les tarifs que touchent les artistes, et ce qui est rarement le cas. Et nous, dans le cadre de ces projets, on fait en sorte que les artistes soient correctement payés.
Parfois, le support que vous réalisez avec tous vos artistes prend la forme donc d'un album. C'était le cas l'année dernière avec Faire Face, les soignants contre le Covid-19, avec le CHU de Bordeaux, 22 soignants, 12 artistes réunis pour réaliser cette BD qui n'est pas politiquement correcte, parce qu'on dit tout, on dit le malaise, on dit les difficultés, on parle de sa colère aussi dans cet album.
Oui, et puis c'est des choses qui passent mieux quand c'est dessiné, parce qu'on peut toujours ajouter une touche d'humour. Pour nous, ça a été très fort de rencontrer tous ces soignants, de pouvoir échanger avec eux, de raconter un peu ce qui se passe au quotidien. Et à l'intérieur de l'hôpital, c'est vrai que en tant que grand public, on voit des images de soins intensifs, etc. Mais derrière, il y a plein d'autres choses qui se passent. C'est la personne qui va aller faire la tournée de diagnostic dans les EHPAD, la personne qui va faire la logistique. Enfin, voilà, c'était aussi une manière de montrer du quotidien et un autre aspect du travail des soignants.
Laure, vous travaillez sur un projet que vous appelez Living Times ?
Living with the Times. Oui, ça, c'est un projet qu'on vient de terminer, qu'on a fait avec l'OMS et un gros groupement d'ONG pour la santé mentale des personnes âgées. Et c'est un bon exemple du développement ou du type de projet qu'on fait. Au départ, donc l'OMS nous avait contactés pour faire une série de 40 recommandations pour les personnes âgées. Il faut voir que le Covid a un gros impact sur la santé mentale, malheureusement, et plus particulièrement chez les personnes âgées. Et ce qu'on leur a dit, c'est 40 recommandations, déjà moi, sans problème de mémoire, si on me balance l'une après l'autre 40 recommandations, jamais je m'en souviendrai. Il faut qu'on trouve une autre manière de communiquer. Et on a eu cette idée de réunir les recommandations dans 5 grands posters de recommandations. Et on pose à la personne âgée une question. Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire pour maintenir du lien social ? Et à l'intérieur du poster, il y a plein d'idées. Et c'est elle-même qui va trouver les idées et choisir ce qui l'intéresse. Et aussi permettre d'établir un dialogue avec les accompagnants, ça peut être la famille ou les personnes soignantes. Et c'est un outil qui est très sympa parce qu'il va mettre en place un discours. Plutôt que de... souvent, quand on lit, on est passif, on reçoit de l'information. Là, c'est l'inverse, on est actif, puisqu'il faut chercher dans une image. Et ça marche super bien. Ça permet aussi d'avoir des échanges avec nos aînés.
Allez sur le site, je répète, theinklink.org ou .fr. Il y a aussi une page Facebook, et nous sommes aussi dans un esprit complètement participatif. C'est le cas avec Living with the Times, c'était le cas avec Faire Face et les soignants du CHU de Bordeaux, et c'est vraiment bien. Merci Laure.
Merci beaucoup.
On revient à Drôme, qui a dorénavant sa web télé positive. C'est une tendance en hausse en ce moment que de faire circuler des informations de proximité qui redonnent le moral et qui sont inspirantes, comme vous nous le dites régulièrement des carnets de campagne. Une association a donc vu le jour il y a 3 mois, comme nous le révèle Philippe, notre correspondant et fondateur de ce jeune média, pour promouvoir cette web TV qui répond au nom de Drôme Adhère. Ils ont fait très fort. Alors, adhère du verbe adhérer. Ça bosse dur là-bas. Enfin, ça bosse une fois, parce que le dromadaire n'en a qu'une, le chameau en a deux. Enfin, c'est bien connu. Petite précision. Le contenu de la chaîne met principalement l'accent sur l'alimentation, les producteurs du département, les circuits courts de consommation, ce qui explique le fonctionnement de Dromadaire sous forme de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui comprend 5 collèges, dont celui des producteurs et celui des promoteurs du consommé local. En un an, la chaîne a publié plus de 150 interviews et reportages et autant de vidéos, c'est joliment fait. Dromadaire.tv, et puis l'engouement pour le local, les projets de vie est bien prononcé. La preuve en est donnée par l'installation d'une population de plus en plus jeune dans les territoires éloignés des métropoles. Et à ce titre, il y a des dispositifs qui poussent aussi les jeunes diplômés à préparer leur avenir professionnel dans les milieux ruraux. Exemple avec le volontariat territorial en administration, le VTA qui permet aux communes, aux communautés de communes, d'embaucher de jeunes diplômés, bac plus 2 au minimum, droit public, droit des collectivités, en échange d'une aide de 15 000 euros par an, les jeunes embauchés bénéficient d'un CDD de 12-18 mois. Il y a un site, c'est le site du ministère de la Cohésion des Territoires, vta.anct.gouv.fr, si vous voulez avoir des informations. C'est l'heure de revenir encore dans la Drôme à Montpellier, un spécial jeune, comme chaque mercredi, pour le jeu des 1 000 euros avec Nicolas Stoufflet.